Le Botto et le meurtre du pont Sainte-Claire. Texte de Patrick Chouissa. La scène se passe devant la maison de l'éclusier, en haut de la rue Sainte-Claire, le 1er janvier 1930. Monsieur Quaignard, qui habitait déjà le quartier, se souvient. Une nuit, je me rappelle, je devais avoir 10-11 ans. On venait de se coucher le soir. D'un coup, on entend crier « Au secours! Au secours !» Le voisin d'en face vient trouver mon père. « Laurent, viens, parce qu'il y a eu un crime !» Mon père est parti avec le voisin. Tous les deux sont allés à l'écluse. Effectivement, il y avait un jeune homme qui était décédé, mort, tué, et sa fiancée qui était avec lui qui criait. Cela avait fait du bruit à l'époque. C'était un militaire, un malgache des casernes. Les deux amoureux étaient assis sur le rebord du pont, à côté de la maison de l'éclusier. Le soldat est arrivé, il a demandé du feu pour sa cigarette, et dans l'instant, il a sorti un revolver volé à un officier, et il a tué le jeune homme à bout portant. Le type a ensuite sauté le parapet, ils l'ont retrouvé quelques jours plus tard. Il a été condamné, du reste. Je me rappellerai toujours. Il s'appelait Le Botto. Le Botto, en effet, en garnison depuis un an au 42e régiment des tirailleurs malgaches, stationné à la caserne Bugeaud, et ordonnance du capitaine Benoît Guyot, qui ne dira de lui que du bien. À l'aune des dépositions et des aveux, des analyses et des interrogatoires, on n'éclaircit pas de manière satisfaisante l'énigme de ses motivations. Racisme, vengeance, jalousie, le balancier ne s'arrête pas comme si le geste avait échappé à son auteur. Les enquêteurs se contenteront de l'état d'excitation et d'une ivresse par ailleurs mal établie au fil des témoignages. Peut-être parce que, selon l'avis du rapport médico-légal, Le Botto est d'une race primitive. Quand les protagonistes racontent, on entend comme la vie est lente, les déplacements rares, les communications espacées. Est-ce pour cela que les échanges semblent plus intenses? On est loin de la nervosité d'une mondialisation dont on nous rebat les oreilles aujourd'hui. Les personnages paraissent bien trempés, ils sortent de l'ombre ou du silence. On sent qu'ils ne baignent pas dans un flot perpétuel de paroles et d'images. Cela leur donne comme une persistance rétinienne, une fixité. Un sens du secret, peut-être aussi, qui va de pair avec une difficulté à analyser ses propres motivations, à se dire. Depuis, la psychanalyse est venue nous délier la langue. Mais le tirailleur Le Botto, pour expliquer son crime, ne dépassera pas cet aveu. C'est un coup de folie que je ne puis m'expliquer. On retrouve bien les passions qui traversent ce récit dans les dépositions et les interrogatoires consignés dans le dossier des assises de la Dordogne. Ces documents mettent aussi en relief une disparition, sinon une mutation, celle des bals. La clientèle est populaire, toute la famille s'y rend. Le soldat Le Botto a dansé quelquefois avec moi, ainsi qu'avec ma mère. Lucienne a 11 ans lors de sa déposition. On n'y danse pas seulement, on joue aux cartes, on se rencontre, on s'affronte aussi parfois. Les militaires des garnisons sont bien présents. Il y a plusieurs bals à Périgueux, dont deux qui insistent dans les témoignages. Robinson, dans le quartier au bord de l'île, et celui de la route de Paris, Mon Désir, le bien nommé. Nos personnages fréquentent également un lieu à l'enseigne poétique, le Clair de Lune. C'est une maison close qui fermera comme les autres en 1946. On est dans une autre histoire, une autre ville, quand les casernes, les bals, les maisons closes et les rues neuves existaient à Périgueux. Quand le bagne où Le Botto fut envoyé pour 6 ans, recueillé et condamné politique et droit commun. 6 ans seulement. La condamnation semble légère, mais l'espérance de vie moyenne ne dépassait pas 5 ans à Cayenne, surnommée la guillotine sèche. En est-il revenu ? Peut-être a-t-il fait souche là-bas, puisque les condamnés y étaient assignés à résidence pour un temps équivalent à la peine. Si vous voulez poursuivre l'enquête, sachez que les archives de l'Outre-mer disposent aujourd'hui encore d'un dossier à son nom.